je suis médecin, gynécologue, accoucheur et sexologue aussi. Et donc l'UTLS m'avait demandé d'aller parler de sexualité chez les adolescents et l'infirmière de votre établissement m'a demandé de parler aussi un peu d'Internet parce qu'il semble-t-il que Internet ça soit très 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 dangereux. En tout cas vécu comme ça. J'ai un peu hésité sur ce que j'allais pouvoir vous raconter. J'ai un peu hésité d'ailleurs avant de venir parce que je voulais bien être sûre que le fait d'aller parler de sexualité, si moi je parle de sexualité, je vais vraiment parler de sexualité. Ça veut dire qu'on va parler d'excitation sexuelle, ça veut dire qu'on va parler comment on se construit pour être capable de prendre du plaisir, d'avoir un orgasme, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir évoluer. Et je voulais être sûre que j'allais pas choquer, ça allait pas être difficile. Et puis il semble qu'on m'a dit non, au contraire, c'est ce qu'on veut et c'est ce qui va se passer. Donc, je vais essayer. Il est évident que dans tout ce que je vais raconter, vous m'interrompez ou en tout cas vous levez la main à chaque fois que vous avez besoin de dire là je comprends pas ou là non mais n'importe quoi je suis pas d'accord ou enfin j'en sais rien moi n'importe quoi. Vous m'interrompez et on discute et on verra ensuite si on fait un débat. Maintenant pourquoi j'ai séparé les garçons et les filles? C'est une hypothèse que j'ai faite. J'ai toujours eu le sentiment que c'est toujours beaucoup plus facile de parler entre filles quand on va parler de sexualité et d'intimité et de ce qui se passe dans son corps, et plus facile de parler avec les garçons dans ce qui se passe parce que, vous allez voir, on va en parler, les différences garçons-filles et la façon dont on se construit comme homme ou comme femme, c'est vraiment pas tout à fait la même chose. Et de fait, les garçons entre eux vont passer leur temps à être en rivalité et dire « mais moi je me suis fait machin, j'ai eu ceci, j'ai fait cela ». Mon pénis, il est super gros, c'est génial. Et les filles entre elles, ça va être plutôt... est-ce que tu es amoureuse? Est-ce qu'il s'est passé, etc. Sauf que, petit à petit, effectivement, l'influence probable de l'accès à la pornographie, parce qu'on va plutôt dire ça comme ça, fait qu'il y a une espèce de comment on pourrait dire, de choses qui s'installent dans les esprits avec des espèces de séquences stéréotypées qui doivent avoir lieu si on veut être au top sexuellement, ce qui est complètement débile. Donc c'est ça dont on va essayer de discuter. Des questions avant que je démarre? C'est bon? On y va. Ah ça, c'est une très bonne idée. Éteignez vos portables comme au théâtre, s'il vous plaît. Merci, très cher. Tu t'appelles comment?
Alexandre.
Merci, Alexandre. Ben alors, je ne sais pas où ça s'éteint, je n'ai pas tout bien compris. Vous trouvez que c'est mieux? Bon, d'accord. Bon, alors, déjà, on va commencer par les fondamentaux. Donc, j'ai cru comprendre... Non, s'il vous plaît. Voilà. J'ai cru comprendre que vous aviez eu des cours, soit par les profs, soit par l'infirmière de votre établissement, et que donc les fondamentaux, ils étaient à peu près réglés. Je vais juste quand même, par prudence, en redire deux mots, parce qu'évidemment, quand on va parler de sexualité, l'importance de la conférence, là, ça va être de parler de plaisir, de désir et d'excitation sexuelle, mais il n'empêche que faire l'amour, ça implique quand même d'avoir un certain nombre de protection entre guillemets, que donc un, la première chose c'est effectivement à votre là où vous en êtes, on fait pas l'amour sans préservatif systématique, n'est-ce pas messieurs? Donc ça veut dire que vous avez toujours un préservatif sur vous,
hein?
Oui, mais elles peuvent pas mettre le préservatif, les filles, elles peuvent en avoir sur elles. Mais si tu veux, jusqu'à preuve du contraire, elles n'ont pas de pénis. Alors, les préservatifs féminins ne sont pas du tout efficaces de la même façon. C'est très difficile à mettre. Les préservatifs féminins sont très difficiles à mettre. Et ça nécessite souvent d'avoir vraiment une... D'abord, se connaître très très bien son corps, connaître très bien son vagin, ce qui est quand même rarement le cas chez les jeunes. Et du coup, le préservatif féminin, on oublie. Donc, je veux dire, alors, et en plus de ça, le préservatif féminin ne va pas protéger du tout de la même façon des maladies sexuellement transmissibles que le préservatif masculin. Donc, préservatif masculin, hein, c'est très clair, c'est tout le monde en a. Et évidemment, vous êtes tous entraînés. Enfin, peut-être que là, vous êtes à un âge où il n'y a plus de problème. Mais enfin, sinon, il faut s'être entraîné à le mettre avant tout seul, quoi, histoire de ne pas avoir l'air débile quand on se retrouve en situation. C'est juste ça comme ça. Et vous, pareil, vous avez intérêt à savoir comment est un préservatif, comment on l'utilise, comment on le met. Oui, 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 tout à fait, on est d'accord. Bon, ça c'est le préservatif, mais je pense que ça, vous avez dû avoir des tonnes et des tonnes de choses dessus. Je crois que c'est quelque chose qui est à peu près rentré. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en général, quand on fait l'amour à votre âge, on n'a pas toujours envie d'avoir un enfant, ce qui n'est pas, en général, pas le but. Et que la fertilité, c'est-à-dire la capacité à avoir un bébé, elle est maximale entre 15 et 25 ans. C'est-à-dire qu'on est au plus capable de faire un petit entre 15 et 25 ans chez les filles. C'est-à-dire pile poil là où vous en êtes. Et donc la contraception, elle est indispensable. Alors il est clair que le préservatif en tant que tel est une contraception déjà pas si mal. Mais le préservatif, ce n'est pas la contraception 100%. Et c'est-à-dire que dans la mesure du possible, à partir du moment où vous commencez à avoir une relation sexuelle qui va être suivie, c'est-à-dire je ne parle pas d'un coup, une fois comme ça, mais de quelque chose, d'une relation qui commence à être suivie, il est évident que le préservatif ne suffit pas, même s'il reste indispensable, en tout cas au moins les trois premiers mois d'une relation suivie, et qu'il y a besoin d'une contraception efficace, et qu'à l'heure actuelle, la contraception la plus efficace dans le groupe de votre âge, c'est la pilule. Alors la pilule, j'ai demandé à votre infirmière, donc vous savez tous où aller au planning familial, il y a des plannings familiales, elle a les adresses, elle a tout ce qu'il faut pour aller consulter si c'est trop compliqué d'aller voir un gynéco ou votre médecin traitant. Au planning familial, la distribution des pilules est gratuite et vous avez une consultation gratuite et anonyme. Ok ? Bon. Ça, c'était la deuxième chose dans les fondamentaux. La troisième, c'est que je voulais juste redire un petit mot sur les maladies sexuellement transmissibles. Je sais que vous avez eu un topo sur le sida ce matin. Le préservatif, c'est nickel pour le sida. Mais il n'y a pas que le sida. Il y a aussi les chlamydiés, dont vous n'entendez pas beaucoup parler, qui est un germe qui s'attrape là encore, en général, en début de vie sexuelle, qui est en général asymptomatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'infection, on n'a rien qui apparaît, et qui va boucher les trompes. Les trompes, vous savez ce que c'est, hein, c'est ce qui part de l'utérus et qui arrive aux ovaires, et dans lequel va se rencontrer le spermatozoïde qui est remonté par l'utérus, et l'ovule qui est venu de l'ovaire. On est d'accord ? Ça va faire un œuf. Et pour qu'il y ait grossesse, il faut que ces trompes, les trompes qui partent de l'utérus, soient libres. C'est-à-dire ne soit pas infecté et n'ait pas d'adhérence à l'intérieur. Or, ce germe, il donne des adhérences du feu de Dieu dans les trompes. Et donc, entraîne ou peut entraîner une stérilité. Voilà pourquoi, là encore, le préservatif, c'est indispensable. Évidemment, chez vous, ça donne un peu moins de choses, mais enfin, quand même. Et puis, la dernière chose, c'est le papillomavirus, dont vous avez dû entendre parler quand même sur les deux dernières années, parce que là, maintenant, on a un vaccin, ce qui est quand même la chose la plus exceptionnelle qu'on ait pu voir, en tout cas dans ma carrière de gynécologue. Le papillomavirus, c'est un virus qui se trouve... Enfin, il y a plein de types de papillomavirus. Là encore, on le rencontre, en règle générale, dans les 5 premières années de vie sexuelle. Évidemment, plus on a de partenaires, plus on a de chances de rencontrer le papillomavirus. C'est valable pour vous aussi. Ça donne des condylomes, c'est-à-dire des espèces de verrues génitales qui sont particulièrement contagieuses, pas très faciles à traiter, mais pas dangereuses en soi, c'est-à-dire que ça ne donne pas de cancer. Et puis... il y a un certain nombre de ces papillomavirus qui vont être gardés par l'organisme et chez 20% d'entre nous, parce que 80% vont s'en débarrasser tout seuls avec des défenses correctes, 20% d'entre nous qui vont l'avoir rencontré vont garder ce papillomavirus et celui-là, il va être capable de donner à terme un cancer du col, ou en tout cas au moins des lésions précancéreuses, et des cancers du pénis, et des cancers de l'anus, et des cancers ORL. C'est une véritable saloperie, ce papillomavirus. Et de savoir qu'il y a un vaccin maintenant, c'est quand même exceptionnel. Donc, je ne sais pas, qui est-ce qui est vacciné dans cette salle ? Alors, les garçons, ils n'ont pas le droit pour l'instant. Parce que pour l'instant, il n'y a pas l'autorisation, il n'y a pas la recommandation en France de vacciner les garçons. Elle vient d'arriver aux États-Unis, donc je pense que ça arrivera chez nous à terme. Mais pour l'instant, vous, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas remboursé. S'il vous plaît, stop. Donc, chez les filles, qui est-ce qui est vacciné ? Oui. Garde d'asile. Bon, toutes celles qui ne sont pas vaccinées, je pense que ça serait quand même une bonne idée d'aller en parler à votre médecin. Je ferme la parenthèse. Oui, garde asile. Alors, ensuite, s'il vous plaît, parce que ça va être pas facile. Comment elle s'appelle la petite blonde là? Hein? Je parle de garde asile parce que la Haute Autorité de Santé a recommandé ce vaccin plutôt que l'autre, parce que ce vaccin protège contre 4 types de papillomavirus. Voilà, alors garde asile. Ok. On finit la partie médicale du truc, c'est clair, il n'y a pas de question dessus. Ok. Alors maintenant, je vais juste redire un tout petit peu, entre guillemets, les bases de la sexualité, ou en tout cas au moins les bases de l'acte sexuel. Que déjà, je pense qu'il est extra... Ah, comment tu t'appelles ? Ouais.
Parce que je bouge quand ça mange.
Bon, alors tu bouges plus. Alors, il y a déjà deux choses sur lesquelles il faut que vous fassiez attention. Ouais. C'est à elle que tu dis ça ou à moi ? Il y a deux choses qu'il faut avoir bien compris. C'est que désir sexuel... Attends, Sarah, ça s'appelle ça ? Les deux s'appellent ça. Alors, il y a une petite Sarah qui va aller derrière. C'est bon ? Il y a une différence entre désir sexuel et plaisir sexuel. Or, régulièrement, quand on a des gens dans nos cabinets, y compris des jeunes, on va avoir quelqu'un qui va nous dire « j'ai plus de désir ». Et rarement autre chose. Il faut avoir compris que le désir sexuel, c'est la capacité d'anticiper quelque chose qui va faire plaisir. D'accord ? C'est-à-dire que le désir sexuel, c'est le fait de penser et de se dire « quand même, ça serait bien si je me retrouvais dans ses bras et que je fasse ceci ou que je fasse cela ». Voilà pour les deux. Ça, c'est désir sexuel. Et le plaisir sexuel, c'est un ressenti. C'est-à-dire qu'au cours d'une intimité sexuelle, que ce soit par caresse ou que ce soit lors d'un coït, il va y avoir un ressenti de plaisir et quelque chose qui va monter. Ok ? Ça, c'est une histoire de définition. Maintenant, il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir d'acte sexuel sans excitation sexuelle. L'excitation sexuelle, c'est quelque chose qui est physiologique, c'est quelque chose qui est génétique, c'est-à-dire qu'on est avec la capacité à faire monter une excitation sexuelle et à décharger, j'appelle ça décharger parce que l'orgasme, grosso modo, c'est une espèce de décharge musculaire qui va procurer, en général, du plaisir, pas toujours, mais toujours un certain soulagement. Alors, l'excitation sexuelle au centre de l'acte sexuel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous serez d'autant de meilleurs amants ou de meilleures amantes que vous serez capable d'avoir été capable de repérer quand cette excitation sexuelle se met en route, comment on arrive à la faire monter et comment on arrive à passer ce point de non-retour pour avoir une décharge et avoir ce sentiment de plaisir. Alors, on va en reparler après quand on va faire différence garçon-fille. Il est évident que vous, c'est vachement plus simple parce que vous, vous êtes né avec le pénis sous les yeux, vous l'avez eu, vous avez pu le toucher et vous avez pu faire ces apprentissages beaucoup plus facilement que nous, qui n'avons rien de visible, évident, et où il faut un certain temps, une certaine curiosité pour, un, aller voir où est son clitoris, pour voir comment il fonctionne, et encore plus pour aller vérifier qu'on a un vagin et qu'effectivement, il a quelque chose de possible à faire avec. Hein ? Il dit qu'on a tous eu demain la naissance. Ouais, mais sauf que vous, vous avez quelque chose qui, dès qu'on le touche, pour peu que ça fonctionne un peu, vous allez être gorgé de sang et vous allez avoir une érection et vous allez être capable comme ça de construire et de repérer comment une excitation sexuelle fonctionne. Quand on a un début d'excitation sexuelle, c'est un réflexe. Du genre, je ne sais pas moi, vous vous retrouvez avec plein de petites nanas à poil toutes plus mignonnes les unes que les autres, clac, vous allez avoir un début d'érection. C'est quand même facile à repérer. Quoi qu'il arrive, vous le sentez dans votre pantalon ou dans votre caleçon ou dans votre slip. Là, non mais bon, là, on n'est pas du tout dans la même histoire. Là, vous allez avoir à apprendre, vous les filles, enfin nous, parce que je fais partie du coup, à avoir à apprendre à repérer quand est-ce que se met en route l'excitation sexuelle. c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire chez nous. Excitation sexuelle chez l'homme, ça veut dire érection. Chez la femme, ça veut dire lubrification. Lubrification, ça veut dire je mouille. Alors évidemment, c'est pas très simple de se rendre compte qu'on mouille comme ça. Donc il faut être capable de sentir que le réflexe d'excitation sexuelle va mettre en route quelque chose où le ventre devient un peu plus chaud, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, on a un sexe qui se gorge de sang, exactement comme le pénis. Mais c'est un peu plus difficile à repérer. Et il est extrêmement important que vous ayez été capable de repérer quand se met en route votre réflexe d'excitation sexuelle pour être capable de le réutiliser quand le moment sera peut-être possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a repéré qu'on a une excitation sexuelle et qu'elle démarre, il faut savoir la faire monter. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire monter quelque chose qui s'apparente au plaisir. Alors vous, avec votre pénis sous les mains, sous la main et de visu, en général, vous avez tous appris à faire comme ça. Très bien. Sauf que, ça, si vous avez appris qu'à bouger votre main, je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux. C'est-à-dire que la base de la diffusion du plaisir, et ça sera valable pour nous aussi, on en reparlera un peu différemment, mais la base de la diffusion du plaisir, c'est quand même d'abord de bouger son bassin. Or, un jour j'avais un cours, je vais vous raconter une anecdote, s'il vous plaît. Un jour j'avais un cours à faire à la fac, et mon hypothèse était que le film pornographique était finalement probablement un très mauvais exemple pour apprendre à faire diffuser cette excitation sexuelle via la bascule du bassin. Et j'avais fait l'hypothèse que, en fait, les mecs dans les films porno ne basculaient pas le bassin, mais étaient comme ça. Et donc j'ai loué plein de films porno, j'ai zappé pour arriver à voir. Effectivement, j'ai eu un petit peu de mal parce que comme le film porno, mais ça on en discutera après, je vais vous réexpliquer, est complètement basé sur des gros plans, c'était un petit peu difficile d'arriver à voir comment bougeait le bassin. Bref, enfin j'ai quand même réussi un peu, conséquence, enfin ou plutôt résultat de mon étude, effectivement, la plupart des mecs dans les films porno, donc très mauvais exemple, ne bougent absolument pas leur bassin mais sont comme ça, sauf Rocco Siffredi. Voilà, c'est une anecdote. Je dis sauf Rocco Siffredi, qui effectivement bascule son bassin. Donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que pour faire monter une excitation sexuelle, s'il vous plaît, pour faire monter une excitation sexuelle, et ça c'est extrêmement important, et chez l'un et chez l'autre, ça s'apprend un peu tout seul. C'est-à-dire que plus vous connaîtrez votre corps, plus vous aurez repéré un certain nombre de choses, plus vous serez capable de faire monter quelque chose, et plus vous serez capable ensuite de partager à deux et de façon satisfaisante. Donc évidemment, en règle générale, dans toutes les études qu'on a, les garçons se masturbent assez tôt, et donc c'est quelque chose qu'ils apprennent à faire, ils apprennent à monter une excitation sexuelle, sauf ceux qui vont avoir appris en ayant la trouille, et donc ils vont au plus vite. Et donc, c'est des garçons qui vont finir par être éjaculateurs rapides le jour où ils vont se retrouver parce que, évidemment, ils n'ont pas appris à jouer avec cette excitation sexuelle, à bouger son bassin, à prendre le temps, à ralentir, à accélérer et à être à la recherche et à l'écoute du plaisir. C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que, là encore, vous ne serez capable d'aller prendre du plaisir à deux que si vous êtes capable d'en prendre toute seule. Et en prendre toute seule, ça veut dire quoi ? Notre organe à nous de plaisir à la base, même s'il y a autre chose ensuite dont je vais vous parler, mais notre organe de plaisir à nous, c'est le clitoris. Et donc, par définition, le clitoris, bah, il faut aller le chercher et il faut aller, pareil, jouer avec et apprendre à faire monter quelque chose avec ce clitoris. Et là encore, toujours en bougeant votre bassin de la même façon. C'est-à-dire que ça, c'est la base de ce qui va pouvoir faire diffuser l'excitation sexuelle. Et c'est valable à n'importe quel âge. Alors, ensuite, je disais que l'appropriation de l'excitation sexuelle nécessitait tatatitatata. Ok, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Donc, j'espère bien qu'en sortant, vous basculerez tous votre bassin remarquablement bien. Bien ! On en rediscutera encore après. Alors maintenant, les bases de la sexualité. Les bases de la sexualité, c'est... je viens de vous en parler, je ne vais pas revenir trop... La masturbation. C'est très clair. Alors, oui, c'est pas fini. Dans toutes les études qu'on a, les garçons se masturbent assez tôt, assez vite. Et puis, quand ils commencent à faire l'amour ou quand ils commencent à avoir une copine, ils arrêtent la masturbation. Bon. chez les filles, c'est fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire qu'en règle générale, les filles commencent à se masturber en fait quand elles commencent à avoir un copain, comme si il fallait attendre un certain état de maturité entre guillemets sexuelle pour s'autoriser à être capable de prendre un peu de plaisir et donc d'en trouver un peu plus à deux. Et vous, c'est comme si la masturbation n'était qu'un substitut de l'acte sexuel et qu'une fois qu'il y avait acte sexuel, il n'y avait plus besoin de se masturber. Alors, quoi qu'il arrive, il y a un, aucune, c'est bien ou c'est mal, ou on a le droit ou on n'a pas le droit. La seule chose qui est importante, c'est que vous soyez capable, et ça c'est vrai pour vous et pour vous, d'avoir un minimum de connaissances de comment on fait monter quelque chose pour obtenir du plaisir. Parce que la sexualité sans plaisir, c'est quand même pas top, hein. Donc le but de l'histoire, c'est quand même de toute façon d'aller éprouver du plaisir. Je ne parle pas d'orgasme, simplement déjà d'éprouver du plaisir. Et d'éprouver du plaisir, ça veut dire que plus vous serez capable de vous connaître et plus vous avez été capable de jouer avec ce corps et d'avoir une petite curiosité autour, et plus les choses se passeront bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour nourrir l'excitation sexuelle, il y a d'abord et avant tout, et ce quel que soit l'âge, l'imaginaire érotique. C'est-à-dire que, ou on appelle ça fantasme. On est bien d'accord qu'un fantasme, ce n'est pas quelque chose qui est dans le passage à l'acte. Ce n'est pas quelque chose qu'on va réaliser. On peut, mais on peut aussi pas. Ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose qu'on ait repéré, qui soit excitant pour nous. Et ça, ça peut être un souvenir de quelque chose de vécu, ça peut être une lecture à un moment donné, ça peut être un film, ça peut être le souvenir d'un sentiment amoureux très puissant. Enfin bref, tout est bon en sachant que les garçons, souvent, là encore c'est caricatural, c'est pas vrai systématiquement, les garçons souvent sont un peu plus génitaux, donc c'est plutôt des trucs un peu crus qui vont les exciter. Et puis, les filles, c'est souvent plutôt romantique et c'est plutôt quelque chose qui va se situer en haut avec l'émotion et avec le romantisme. Mais ce n'est pas du tout systématique. L'important, là encore, c'est que chacun ait repéré qu'est-ce qui était bon pour soi et qu'est-ce qui permettait de faire monter quelque chose. OK ? Et puis, la troisième dimension, quand même, qui est vraiment extrêmement importante pour avoir la capacité à prendre du plaisir et donc possiblement à jouir et avoir un orgasme, ça, c'est vrai chez les filles. Et pour vous, ça serait plutôt avoir la capacité de jouer avec son excitation sexuelle de façon tranquille et d'en avoir du plaisir sans être ni éjaculateur rapide, ni anéjaculateur, parce qu'il y a ça aussi. Anéjaculateur, ça veut dire l'incapacité à atteindre un état d'intensité sexuelle suffisant pour éjaculer. C'est-à-dire que tu tiens, il se passe, ça sort toujours pas. À deux. Parce que tout seul, en général, ça marche bien. À deux. Et donc, la troisième dimension de base pour avoir la capacité à « jouir », entre guillemets, ça va être quand même d'être fière. D'être fière d'être un homme ou d'être fière d'être une femme. C'est-à-dire avoir une certaine... Je suis bien dans ce corps de femme, je suis bien dans ce corps d'homme, je suis bien en tant que femme ou en tant qu'homme. C'est-à-dire que je suis capable de me respecter comme je respecte l'autre. Et ça, c'est absolument indispensable si vous voulez être capable de lâcher prise pour jouir. Surtout chez la fille. Et c'est une dimension indispensable au plaisir. Ça marche toujours parce qu'à force de gueuler, là, c'est un peu hard. Ouais ?
Non, c'est pas vrai.
Alors, maintenant, la construction sexuelle. On se construit tout au long de la vie. L'autre chose que j'aimerais que vous reteniez avant de partir d'ici, ça sera quand même ça. C'est-à-dire que la sexualité... La sexualité, c'est développemental. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné, on est comme ça qu'on le sera toujours. C'est quelque chose qui peut toujours évoluer. C'est pas parce qu'on n'a jamais eu de plaisir qu'on ne peut pas en avoir. C'est pas parce qu'on est éjaculateur rapide qu'on ne peut pas devenir un très bon amant en n'étant plus éjaculateur rapide. Je veux dire, ça se développe tout le temps et c'est quelque chose qui peut toujours évoluer, toujours, toujours, toujours. Et ça commence très tôt, c'est-à-dire que l'apprentissage de tout ce qui va permettre de monter une excitation sexuelle et d'en avoir conscience, ça va être d'avoir joué avec des rythmes quand on était tout petit en se baladant sur le Yupala, ça va être d'avoir été capable de sentir le plaisir qu'on peut avoir à une caresse sur le corps, ça va être voilà, tout ce qui est développement et curiosité des sens. Et ça va être aussi l'appropriation du tonus musculaire. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est complètement comme ça, hypotonique, un peu difficile d'aller maintenir une excitation sexuelle.
Si on est complètement comme ça, hypertonique tout le temps, complètement serré, on a la trouille, c'est pas bien, on a peur et on bouge pas.
Difficile, là encore, d'éprouver un peu de ressenti de plaisir. Et donc, là encore, tonus musculaire de base, ça, c'est le tonus axial. Et puis, c'est un peu vrai chez vous, parce que ça va aider à augmenter un peu les sensations, mais c'est surtout vrai chez nous, qui est le tonus périnéal. Le tonus périnéal, le périnée, vous voyez où c'est tous les muscles qui entourent le vagin et l'anus. D'accord? Mais surtout le vagin. Et que là encore, alors je vous redonne encore un autre truc, enfin c'est pas un truc, c'est une réalité physiologique. Chez nous, la vulve et le clitoris, on a les récepteurs au plaisir qui sont sensibles au frottement. Dans le vagin, et ça c'est extrêmement important pour vous de le savoir, dans le vagin, il n'y a pas de récepteur au plaisir sur les parois du vagin. Donc on peut bien frotter, du genre vous limez tranquillement comme ça, et bien il ne va pas se passer grand-chose chez nous. C'est-à-dire que le vagin, il n'est pas sensible au frottement, il est sensible à la pression. Et la pression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on ait un bon ou un mauvais amant, on va être capable d'aller ressentir quelque chose au niveau vaginal si nous, on va chercher quelque chose, un, en bougeant son bassin, mais surtout en bougeant son vagin. Et donc, les muscles qui sont autour. Et là encore, c'est une appropriation. Une des façons de vous rendre compte, de savoir comment fonctionne votre périnée, et si vous êtes capable de vous en servir, c'est quand vous allez aux toilettes, et je ne vous recommande pas de le faire plus d'une fois par jour, parce que bon, une fois par jour, vous allez aux toilettes, vous faites pipi, et au milieu de la miction, claque, vous arrêtez le jet, et vous laissez repartir tout de suite. Ça va vous permettre de sentir où est-ce que sont ces muscles et comment ils fonctionnent. Et puis ensuite, en dehors de la miction, vous vous entraînez régulièrement. Hein, ça va faire comme une espèce de petit ascenseur au niveau de votre périnée qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Ça, même titre que la bascule du bassin, c'est la deuxième base pour avoir la capacité à éprouver un peu de plaisir au cours de la pénétration vaginale. Sinon, le vagin, il n'existe pas. Le vagin, il n'existe que parce que nous, on le fait agir et en bougeant et en jouant avec. Et donc, quant à vous, évidemment, là-dessus, c'est très clair. C'est-à-dire que si vous êtes hyper monotone et monomaniaque, ça va être très chiant. Donc, il faut que vous soyez capable de, là encore, autant pour vous que pour l'autre, d'aller varier avec les rythmes et avec tout ce que vous pouvez ressentir. OK? Et d'autre part, le plaisir, c'est pas, surtout pour vous, encore plus fort. Non, ce n'est pas parce que vous allez être encore plus fort que ça va être meilleur. Pas du tout. C'est clair, ça, ou je parlais un peu chinois? Ça va. OK? Et évidemment, tout ce que je viens de vous raconter, c'est valable que si vous vous donnez la permission de faire ces découvertes et d'aller vous explorer. Et ce n'est pas obligatoirement très simple, suivant l'éducation que vous avez reçue, suivant ce que vous avez entendu, suivant tout ce que vous voulez. Mais c'est une histoire entre vous et vous. Personne n'a besoin d'être au courant. Et c'est quand même extrêmement important pour la suite et pour vous devenir une femme qui soit plutôt à l'aise avec la sexualité et surtout pour qui c'est quelque chose de bon. Alors maintenant, les différences garçon-fille. J'en ai quand même un petit peu parlé déjà. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le garçon, il a le pénis devant lui depuis toujours, donc c'est vachement plus facile de se construire. La fille, il va falloir aller faire preuve d'un peu de curiosité. La deuxième chose qu'il y a à savoir, c'est que dans la construction, et là encore, je parle de choses générales, mais le garçon, il développe en règle générale le canal visuel pour s'exciter. C'est-à-dire qu'en général, pour vous, c'est la vision qui va vous permettre de monter l'excitation sexuelle et d'avoir du plaisir. C'est-à-dire que vous allez nourrir votre excitation sexuelle principalement par la vision. Ça, c'est vrai pour la plupart des hommes et des garçons. C'est comme ça qu'on se construit. Et nous, on va plutôt développer les canaux de l'audition, c'est-à-dire que c'est des paroles qu'on peut entendre, en général, oui, et puis le toucher. Et d'ailleurs, en règle générale, une fille ou une femme, là en l'occurrence, je vais prendre plutôt les femmes qui font l'amour, elles ont les yeux fermés. C'est pas très fréquent les filles qui font l'amour en ayant les yeux ouverts. Parce que ce canal de la vision, quelque part, il est plus parasitant pour rester proche de cette excitation sexuelle que excitant. Alors que ce n'est pas vrai pour eux. Et vous verrez rarement un homme... Enfin, vous verrez, j'en sais rien. Mais, rarement, les hommes font l'amour avec les yeux fermés. Souvent, en général, ils ont les yeux ouverts parce que ça permet de les nourrir. Oui, vas-y, Alexandre. Attends, explique-moi, j'ai pas bien compris. Vas-y, raconte. Tu veux dire que ta copine t'a serré très fort les épaules? Et alors, comment tu l'interprètes? Oui, mais ça peut être simplement parce qu'elle montre quelque chose et que... C'est toi qui as des griffures? Bah écoute, peut-être qu'elle montre très fort une excitation sexuelle et qu'elle a besoin de l'exprimer et qu'au lieu de crier, elle te griffe. Toutes les filles vous griffent, mais c'est les Marseillaises, ça, hein, parce que je suis pas sûre que ce soit pareil partout. Bon, là, c'est pas exactement ça dont je parlais. Là, tu me parles de quelque chose qui arrive pendant l'acte sexuel. Là, je suis en train de parler, moi, du canal sensoriel principal qui va permettre de monter une excitation sexuelle. C'est-à-dire, grosso modo, c'est la façon dont toi, tu vas toucher ta copine qui va lui permettre de monter son excitation sexuelle. Alors que toi, tu vas plutôt monter ton excitation sexuelle en regardant ce qui se passe ou en visualisant quelque chose. D'accord ? De quoi ?
J'ai pas compris les canaux du bruit.
L'audition, le fait d'entendre des choses. Si on dit... Comment ? Alors, ça peut être, surtout chez les jeunes, t'es belle, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, des choses qui vont remplir l'affection, en tout cas des choses qu'on entend. Et puis un peu plus tard, ou pas, il y a des femmes, elles, qui seront excitées par des trucs du genre cochonne, des choses un peu plus crues. Bon, là encore... Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... S'il vous plaît. Il n'y a pas de règle et il n'y a pas de truc normal ou pas normal. L'important, c'est que là encore, ce que vous allez développer avec l'autre soit suffisamment bon, puissant, intéressant, agréable et confiant pour que chacun puisse être capable d'aller procurer qu'est-ce qui va faire le plus de plaisir à l'autre. D'accord ? C'est compris ? Bon, les garçons, c'est quoi, là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Nous avons un couple de fauves. Bon, on en reparlera après. S'il vous plaît. Alors après, toujours dans les différences garçons-filles. Et alors là, ça vous concerne vous particulièrement. Une femme ou une fille met 5 à 7 fois plus de temps pour atteindre le même état d'intensité sexuelle qu'un garçon. D'accord ? Ça veut dire quoi en pratique ? Ça veut dire qu'il faut prendre du temps, mais raconte-moi encore un peu plus que ça.
Il faut la mettre dedans, là, au début.
Alors, comment... Attends. Comment tu la mets dedans ?
Alors, comme vous dites, là, on va aller faire des... Comment on dit déjà ? Des préliminaires, là.
On va faire des préliminaires, mais qu'est-ce que tu appelles des préliminaires ?
C'est bon.
Ben si, parce que je crois que c'est vachement important.
Je sais pas si je dois dire ça à moi.
Faire quoi? Ah bah c'est pas la toucher un peu, c'est la toucher pas mal. Sauf que là encore, ce que vous devez apprendre, c'est que vous allez avoir tendance à faire à la fille ce que vous aimeriez bien qu'on vous fasse. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît. Ça veut dire que vous allez avoir tendance à aller directement aux organes génitaux de la fille. On va en reparler après. Ça veut dire que vous allez aller directement dans... Or, là encore, quand je dis 5 à 7 fois plus de temps à une fille pour atteindre le même état d'intensité sexuelle, ça veut dire qu'une fille, elle va d'abord aller recruter tout ce qui se trouve hors organes génitaux et seins pour petit à petit commencer à pouvoir monter quelque chose. Ça veut dire qu'un bon amant commence d'abord par caresser sa copine sur les épaules, les cheveux, le visage, lui faire des bisous, etc., 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 avant petit à petit d'arriver à la génitalité. Par contre, mesdames, il se trouve que les mecs, ils fonctionnent pas du tout comme ça, et que eux, ils ont besoin qu'on aille d'abord à l'essentiel, à savoir leur pénis, et après, on peut peut-être leur faire partager ce que c'est que d'être caressé dans les épaules, voire griffé, parce que je n'ai pas compris s'ils aimaient ou pas, hein, mais on en reparlera après. Bref, ce que je veux dire, c'est que vous, si vous voulez faire plaisir à votre copain, effectivement, si vous allez le caresser sur l'épaule, en général, il va se dire, putain, quand est-ce qu'elle en arrive à l'essentiel ? Alors que eux, en général, ils vont directement au sein et au sexe et vous dites, putain, il ne faudrait pas prendre un petit peu de temps. Voilà. Et donc ça, ça fait partie de ces... Chut, s'il vous plaît. Ils sont chiants, en fait, là. Et ça, c'est vraiment la différence homme-femme la plus importante qu'il faut absolument que vous ayez compris. Ça veut dire que il faut avoir entendu qu'on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et que donc, quand un garçon va directement sur les seins, c'est pas parce qu'il est con, c'est parce qu'il fait ce qu'il pense qu'il serait bon pour lui. Et inversement, quand les filles vont vous caresser les épaules pendant des heures et vous vous dites « Putain, mais quand est-ce qu'elle en arrive à l'essentiel ?» C'est pas parce qu'elles ne veulent pas vous faire plaisir, c'est parce qu'elles aimeraient bien qu'on leur fasse ça. Donc, il faut avoir bien compris que, voilà, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, garçon-fille, et qu'à partir du moment où on a compris ça, eh ben, on s'adapte, parce que le but du jeu, quand même, c'est de partager quelque chose qui soit bon pour les deux. D'accord ? Bon, ça, c'est la première chose. Et par ailleurs, de toute façon, une fille, il se trouve qu'on a quand même, on est un peu plus riche que vous, c'est comme ça, hein, et on a beaucoup plus de récepteurs de plaisir partout, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et du coup, probablement que c'est une des raisons évoquées pour lesquels il nous faut plus de temps que vous pour atteindre un certain niveau d'intensité sexuelle, ça veut dire pour mouiller correctement ou en tout cas pour avoir quelque chose où c'est monté et où on sent qu'on a envie. Premièrement. Deuxièmement, que c'est assez habituel pour une fille, a fortiori quand on se connaît un petit peu, d'avoir du plaisir lors de l'acte sexuel. Et quand je dis acte, je ne parle pas que de pénétration vaginale. Hein. Acte sexuel, ça veut dire toute l'intimité sexuelle de A à Z. Mais que l'orgasme, et atteindre l'orgasme, ça peut nécessiter un peu de maturité. C'est quelque chose qui... il est évident qu'à 20 ans, on orgasme quand même souvent beaucoup moins qu'à 40. Et alors, en plus de ça, c'est l'autre différence quand même un peu dégueulasse. C'est que les femmes, plus le temps passe, plus en général, elles deviennent de bonnes amantes et avec du capacité au plaisir sexuel qui est maximal, grosso modo, à partir de 40 ans. Et le mec, à partir de 40 ans, il commence à être moins bon. Et il bande moins bien. Et il a une période réfractaire beaucoup plus longue. Évidemment, à votre âge, vous jouissez quasiment dans les 5 minutes qui suivent, vous pouvez redémarrer. 40 ans, c'est... J'exagère, mais souvent comme ça. 40 ans, impossible. C'est pour ça qu'elle préfère les petits jeunes. Oui, mais les petits jeunes, souvent, ils sont un peu toujours plus forts et toujours trop vite. Alors, c'est pas tout à fait vrai non plus. Il faut apprendre à pas aller vite. Et si tu veux être un bon amant, c'est ça la base. Bon, et puis alors, la difficulté chez le garçon, ça, c'était le plaisir chez la fille. Et la difficulté chez le garçon, ça va être de garder une érection parce que quand même, ils ont tous une trouille panique de ne pas bander correctement. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est nous les plus faibles. Ce n'est pas tout à fait obligatoirement si vrai que ça. Et surtout, ils ont la trouille d'éjaculer trop vite, ce qui est quand même le cas d'un homme sur trois. Hein ? Toutes les études sociologiques, enfin sexologiques même, montre qu'un homme sur trois éjacule rapidement. Éjacule rapidement, ça veut dire en moins de 2 minutes. 30%. Bon, et c'est pas très facile pour eux toujours. Et donc, ce que j'avais envie de redire là encore, avec toutes ces explications techniques qui perdent un peu de romantisme, c'est quand même que l'acte sexuel, ce que je vous ai redit tout à l'heure, le but du jeu, c'est de toute façon d'arriver à être entre guillemets comblé, ou en tout cas à vivre quelque chose ensemble et que ce soit bon. Et c'est d'autant meilleur que quand on a une capacité d'excitation sexuelle qu'on connaît et qui soit en rapport avec le sentiment amoureux qu'on peut ressentir. Et ça, c'est vrai dans les deux sexes. Ça va toujours, là ? Bon. Alors maintenant, j'ai mis qu'est-ce que j'entends souvent comme question ? Donc, les questions des filles, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Les questions des filles qui sont dites ou pas posées, mais qui sont quelque part un peu enfouies, c'est est-ce que je suis capable de faire un bébé ? C'est-à-dire que même s'il n'est pas question d'avoir un enfant, en règle générale, une jeune fille va très vite, c'est une des choses à laquelle elle pense, c'est-à-dire sexualité, c'est quand même souvent la première chose qui vient, c'est est-ce que je suis capable ? Pas de faire l'amour, c'est est-ce que je suis capable d'avoir un bébé. Alors que la première chose, c'est est-ce que je vais être capable d'avoir une érection et d'éjaculer. C'est là encore, c'est une des différences. La deuxième question que j'entends très régulièrement, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, c'est est-ce que ça va faire mal la première fois et comment faire pour que ça se passe bien ? Le blanc me fait dire que cette question doit être effectivement très importante. La troisième question, c'est est-ce que je vais saigner ? Attends, je vais finir mes questions puis tu me dis après. Ah ? Est-ce que je vais saigner ? Et la quatrième question que j'ai entendue toujours, c'est comment être sûr qu'il m'aime et qu'il ne veut pas juste coucher ? Ah, vas-y, j'écoute ta question, on va rediscuter de ça.
Non, mais parce que moi, la première question, c'est pas ça, c'est la dernière question.
Tu veux dire que la chose que tu... Elles peuvent être dans le désordre si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que c'est les questions qu'on va retrouver de façon régulière que vont se poser les filles en début de vie sexuelle. Ou avant, ou juste après. Et comment être sûr qu'il m'aime et qu'il ne veut pas juste coucher ? Eh bien, de toute façon, c'est une question que tu continueras à te poser toute ta vie, parce que de toute façon, jeune ou plus âgé, on se pose toujours la question de savoir si on est aimé et comment on est aimé et pourquoi on est aimé. Intéressant. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, c'était ta question principale. Comment ça s'appelle ? C'était important pour toi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à ces questions ? Vas-y. Comment tu t'appelles ?
Xavier.
Comment ? Xavier. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, dis ce que tu penses vraiment. Parle bien fort et articule.
J'ai déjà plusieurs personnes.
Ouais.
Pour une fille, pourtant, parce que tout se demande si, justement, voilà, s'il ne veut pas juste coucher, tout ça. J'ai l'important, c'est qu'elles, même si c'est leur première fois, de le faire si elles ont des sentiments. Parce que vaut mieux coucher avec quelqu'un en ayant des sentiments pour lui, même si après, lui, il doit peut-être nous quitter ou pas, on ne sait pas. Vaut mieux coucher avec quelqu'un en ayant des sentiments pour lui. Pas coucher avec lui, se dire au bout de ça fait un an que je suis avec lui, ouais, mais je suis toujours pas sûr de tout ça, ouais, mais bon, ça fait un an, donc allez, on le fait, tout ça, et bon, on le termine. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, attends, est-ce que tu es en train de me dire que de toute façon, on pourra jamais savoir, que la fille peut jamais savoir si le garçon l'aime ?
Si, oui. Oui, non, oui, elle peut, bien sûr.
Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de leur faire passer comme message, là, tes copines ?
Il faut arrêter de. Il a dit que ça veut pas dire qu'on va attendre plus longtemps. On va l'aimer plus. Alors, si on aime sur le moment, on peut le faire maintenant. Et on n'est pas obligé d'attendre 3 ans. Moi, j'ai compris.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à partir du moment où une fille est amoureuse, elle doit coucher. C'est ça que tu me dis.
Bien sûr, c'est bon, coucher sur le moment, mais bon, elle n'a pas. Voilà, elle n'a plus le plaisir, genre 2-3 mois. Et,
voilà, pour être sûr. Voilà,
pour être sûr, pas histoire de moi, je sais pas.
Eh oui, mais est-ce que vous pouvez entendre que pour être amoureuse et pour construire un sentiment amoureux, il faut peut-être du temps. Et que la sexualité, c'est pas quelque chose qui va obligatoirement suffire ou être une finalité. Parce que là, vous êtes en train de me dire, grosso modo, bon, mais si on est amoureux, on couche, et puis après, on verra bien ce qui se passe. Sauf que la sexualité, c'est quelque chose qui se partage et qui est d'autant meilleur que... Ça dure parce que plus on se connaît et plus on est capable de faire l'amour de façon efficace et agréable avec du plaisir. Il y a beaucoup de timidité, ouais, c'est aussi vrai pour elle que pour vous. Oui, mais on peut entendre pour des raisons culturelles et pour des raisons. Voilà, que la première fois on a envie que ça soit quelque chose d'important et avec quelqu'un dont on sait qu'il ne se fout pas de soi. C'est compréhensible, ça, pour vous.
Oui, mais moi, finalement, si j'étais une femme.
Ah ouais, mais sauf que tu ne l'es pas.
Non, mais moi, je me mets à la place d'elle. Moi, j'aurais préféré coucher avec un homme, je suis resté peut-être un mois avec lui, mais je l'ai vraiment aimé, plutôt.
Et comment tu peux vraiment aimer quelqu'un avec qui tu restes un mois ?
Parce que si elle pense vraiment aimer quelqu'un...
Bah oui, mais il lui faut du temps pour savoir qu'elle aime vraiment. C'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je sais pas.
ça. Toute la vie. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Chut, s'il vous plaît.
Quand tu parles d'un temps, un mois, deux, la fille, bon, c'est pas exactement ce qu'elle a dans la tête.
Chut.
Vu que la fille a plutôt tendance à ses sentiments, le nombre de temps où elle est restée avec la personne, mais au bout d'un mois, non, mais c'était pas la question.
Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu veux nous dire que par rapport à ce qu'il a dit, un mois, c'est pas suffisant. C'est ça que tu veux dire?
Oui, mais la fille, elle fonctionne pas comme l'homme.
Ah, ça, c'est très clair.
Lui, dès la première fois, c'est qu'on va voir la fille, il va se dire, ouais, je veux directement avec elle. Ça dépend, on va dire, à 98% des cas, les hommes veulent directement coucher avec les femmes.
Alors, dès que vous rencontrez une nana, vous avez envie de coucher avec elle?
On veut se mettre avec elle, on veut sortir avec elle et tout. C'est que déjà à la base, elle nous plaît, à mon avis, de corps, sexuellement, et qu'on veut se verrer faire quelque chose.
Corps sexuellement.
Voilà, oui, c'est
ça. Enfin, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en général, quand tu veux sortir avec une fille, elle te fait bander.
Non.
Ben attends, j'espère que si. Ben, j'espère que si. C'est la base quand même.
Non, c'est cool de dire ça.
Je suis là pour ça. Bah oui. Mais est-ce que tu crois pas qu'une fille, quand elle va vers un garçon, enfin quand vous commencez à vous intéresser à un garçon, est-ce que c'est pas aussi qu'il vous attire physiquement? Alors quand vous dites pour vous qu'il y a une attirance physique, ça veut juste dire que vous le trouvez beau. Ça veut pas dire que vous avez envie de le toucher. C'est ça que vous voulez me dire?
Ça dépend de la chose. Elle a déjà eu des rapports ou pas? Parce que si on revient à la question qu'il a écrit pour le tableau, il disait que bon, voilà, si elle s'y mêle, est-ce que j'y vais ou pas, mais très souvent, la vie après, elle était sûre parce que la personne qui est en face, elle ressemble.
Alors, est-ce que vous pouvez entendre qu'on a été aussi éduqués avec le fait que, voilà, il y a un homme pour toute la vie et que le premier qu'on va rencontrer, ça va être par définition le bon, celui avec lequel il va se passer mais quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, il y a beaucoup de déceptions. Sauf que la vie, en tout cas, telle qu'elle est vécue à l'heure actuelle, et dans nos sociétés occidentales, ça ne fonctionne pas complètement comme ça. Et que probablement que de la même façon que plus vous allez évoluer, plus vous allez être capable de vous connaître et de savoir avec qui vous allez pouvoir partager des choses, bah peut-être qu'il va falloir, ou pas, mais le premier n'est pas toujours le prince charmant idéal qui va durer toute la vie. Chut, attendez, parce que je n'entends pas. Qu'est-ce que tu dis?
Je veux dire aussi que les hommes, ils endorment vite.
Ils vous endorment vite, tu veux dire par là qu'ils vous disent « Mais oui, je t'aime, mais oui, je t'aimerai toujours. » Donc là, en fait, vous êtes juste en train de m'expliquer, vous êtes juste en train de mettre en évidence que, effectivement, les différences garçon-fille et la façon dont chacun pense... Alors, c'est vrai, ce qui est clair, c'est que les filles et les femmes en général, mais les filles au départ, sont dans une polarité très romantique et dans quelque chose de sentiment amoureux. Et que les hommes, à cette époque-là, mais ils ne sont pas tous comme ça, ils ont un pénis à la place du cerveau. Et qu'effectivement, ils sont... Non, pas tous. Mais beaucoup sont... Non mais, c'est tout. Ça, ce que je voudrais que vous entendiez là, c'est que il n'y a pas à jeter la pierre ou dire vraiment les mecs c'est nul ou que vous vous dites ah, vraiment les filles c'est nul, ça ne veut pas coucher. Non, on a deux façons de fonctionner, deux façons d'avancer et que voilà, c'est tout. À cet âge-là, il y a une vraie différence de ce genre-là. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de cette différence? Eh bien, je crois que vous devez apprendre à vous écouter. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas tranquille, que vous n'êtes pas en sécurité affective, que vous ne vous sentez pas en sécurité affective, peut-être que vous vous tromperez, mais peut-être que non. tant que vous ne vous sentirez pas en sécurité affective, il faut que vous respectiez ce que votre corps est en train de vous dire. Et quand il dit non, c'est non. Et quand une fille dit non, c'est non. Ça, c'est clair. Chut. Attends, attends. Justement, non. Attends, et là, on va en reparler parce que c'est super important. Attends, attends, je finis ça. Et donc, il faut que vous appreniez à vous respecter, à attendre autant que faire se peut, même si en face, vous avez une pression d'enfer qui vous dit « Oh non, mais quand même, tu pourrais faire ça pour moi, mais quand même, bah, si tu m'aimes, tu vas y aller. » Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je veux que vous entendiez, vous, absolument, et ça, ça fait aussi partie d'une inégalité que vous devez assumer, c'est que une fille peut avoir dit oui, et qu'au moment où vous vous retrouvez nus tous les deux l'un à côté de l'autre, eh ben, elle va dire non. Eh ben, tu n'as pas le choix, tu t'arrêtes. Parce que ça s'appelle ce qu'on appelle des rapports non consentis. C'est pas, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une inégalité. C'est-à-dire que la fille, avec son corps, peut avoir effectivement une vraie pulsion émotionnelle, quelque chose avec une envie de rapprochement, quelque chose de l'ordre de la fusion, et elle va se laisser aller. Et au dernier moment, elle sent que, ah non, elle n'est pas prête. Eh bien, c'est dégueulasse pour vous, mais c'est comme ça, et vous devez l'accepter, et vous devez le respecter.
Si l'homme, il aime, il reste, il ne dit pas grave, puis s'il n'est pas...
Eh bien, il lui dit, ça sera pour une prochaine fois.
Donc, comment être sûr qu'il...
Comment, oui. Voilà, et c'est, il a un peu répondu. Ce que je veux dire, c'est que vraiment... respectez-vous et écoutez-vous, vous n'avez aucune obligation et c'est pas parce que vous ferez l'amour que l'homme vous aimera mieux, ils vous ont répondu, ils vous l'ont dit très très bien. Oui.
Moi ce que je pense, c'est vraiment qu'il n'agisse pas, c'est parce qu'il n'aime pas avoir des réputations.
Voilà, tout à fait, je suis d'accord.
Et d'écouter de quoi vous avez envie, et vous pouvez avoir envie là et au moment X plus avoir envie, vous sentez que non là c'est trop tôt, c'est pas prêt, et bien si c'est pas prêt, c'est pas prêt.
À chaque fois qu'une fille le fait avec eux, ils le crient sur tous les toits. Donc, du coup, les filles, elles ne veulent plus rien faire. C'est logique.
Vous le filles, c'est très...
Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'effectivement, quand un garçon à cet âge-là a couché avec une nana, il est tellement content qu'il en parle partout et il se vante. Ah, et c'est pas parce qu'il est content, c'est parce que quoi ? Est-ce que vous êtes en train de me dire, les garçons, qu'en fait, quand une fille couche avec vous, quelque part, finalement, vous ne la respectez pas et vous la méprisez ? Plus fort.
Des fois où il a juste passé quelque chose avec quelqu'un, mes amis étaient au courant, c'est normal, après le reste, voilà.
C'est normal.
Mes amis, oui.
En fait, il y a pas d'intimité.
Mes amis, mais... voilà. Mes amis, oui, le savent. Après, le reste, non. Après, si mes amis le disent, c'est leurs amis qui le disent.
Ah ouais, c'est pas des amis.
Mais on va parler de la façon concernée, là. C'est pas pareil, c'est l'homme qui l'a fait.
C'est l'homme qui l'a fait, il lui dit à tout le quartier veut passer sur la fille.
Donc, en fait, vous êtes en train de m'expliquer que... Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est un problème à Marseille.
Et même pour les personnes qui sont mais si la fille est plus non, il peut même s'il peut pas.
C'est quoi ça? Bon, et donc qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion? Qu'il ne fallait pas aller faire l'amour avec quiconque pour être sûr de ne pas avoir de soucis ?
Oui, faire l'amour
en un mois, ça sert.
Tu veux dire ? Donc que les garçons sont moins sincères. Alors, ce n'est pas exactement vrai. Simplement, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Hein ? Alors, je voudrais bien que vous me racontiez cette histoire de disquette. C'est quoi cette histoire de disquette? J'ai pas bien compris.
En fait, c'est des gros menteurs. En fait, le truc qu'ils vont te dire, ils vont le dire à tous les filles.
Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris.
Les garçons de nos jours, c'est des menteurs. D'après ce qu'elle dit.
Mais pas.
Alors, là encore, C'est pas les garçons de nos jours sont des menteurs. C'est les garçons ne fonctionnent pas exactement de la même façon que les filles. Ça, c'est très clair. Et qu'à cet âge-là, les garçons sont moins investis affectivement que peut l'être une fille. Donc, qu'est-ce qui vous reste à faire, vous ? Alors, le mariage, ça, je suis pas sûre, mais en tout cas, d'attendre d'être clair avec soi-même et d'être clair avec l'autre.
Madame,
c'est quoi ça? Bon, alors c'est quoi l'histoire des disquettes?
Des paroles qui, de l'homme, ils vont croire à la femme, mais qui, en vérité, ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent. Comme ça, la femme, elle tombe sous le charme, elle tombe amoureuse, et après, elle passe à l'acte.
De même,
et eux, en gros, ce qu'ils auraient voulu. Et le lendemain, là,
et alors, vous avez l'impression que c'est vrai qu'à Marseille, ça? C'est vrai dans toute la vie de toute fille. À partir du moment où tu prends pas le temps de t'attacher et que tu mets pas peut-être un peu à l'épreuve le garçon. Et que tu vas faire parce que tu penses que voilà, et puis parce que la copine a fait, et puis parce que machin, etc. Et que donc tu n'as pas respecté ni ce que tu ressentais, ni tes sentiments, ben effectivement, peut-être que tu vas te faire avoir, entre guillemets, le avoir. Enfin. Mais là encore, vous avez le droit de les mettre à l'épreuve, hein. Quand même. Bon, les questions des garçons maintenant. Alors, si, quand même. Quand même, le coup de « est-ce que ça fait mal ?» Je vais quand même répondre. D'abord, oui. Je vais d'abord « est-ce que ça va saigner ?» Là-dessus, je veux qu'on soit très, très, très clair. Il y a tous les types d'hymen possibles et inimaginables dans la vie. C'est exactement comme les nez. Hein. Il y a autant d'hymen que de nez différents. Qu'un hymen, il peut être très, très, très souple et donc pratiquement ne pas saigner du tout. Que d'autre part, les hymens très souples peuvent s'être déchirés à l'occasion de... activité sportive très importante. Cheval un peu, mais surtout plutôt la gym. Voilà. Donc il peut y avoir un hymen qui soit déchiré comme ça. Un tampon, de façon générale, ne déchire pas un hymen, c'est pas possible. D'accord ? Et on peut parfaitement ne pas saigner. Et que grosso modo, on considère que 50% des filles ne saignent pas ou alors une micro-goutte au moment du premier rapport, parce que l'hymen a déjà été écarté suffisamment pour qu'il n'y ait pas de déchirure susceptible d'entraîner du sang. Donc ça, c'est la première chose et c'est quand même très important. La deuxième chose, c'est est-ce que ça fait mal la première fois? Là encore, plus vous serez excité, plus vous aurez eu un garçon qui va avoir été capable de prendre du temps, d'avoir des caresses. Et quand je dis prendre du temps, c'est un minimum de 30 minutes de caresses. On est bien d'accord? Toujours. Je parle de caresses là. De façon à pouvoir faire. De façon à pouvoir faire monter l'excitation sexuelle chez les filles. Et plus vous serez excité, et donc plus vous serez mouillé, et évidemment moins ça sera douloureux, voire pas du tout. Ok ? Bon, alors maintenant les questions des garçons. Alors, ne me dites pas que vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir si votre sexe était de taille normale. Hein? Est-ce qu'elle va se rendre compte que c'est la première fois? Est-ce que je vais tenir mon érection éjaculée? Et comment je vais faire pour ne pas éjaculer trop vite? Ça, c'est des questions que moi, j'ai entendues de façon très, très régulière dans la bouche des jeunes hommes. Alors, peut-être qu'ils étaient un peu plus vieux que vous. Mais grosso modo qu'on rencontre de façon régulière. Alors là encore, je vais redire, il n'y a pas de taille normale de sexe, enfin grosso modo, sauf les micro-pénis, mais quand ils sont micro, ils sont vraiment micro, et que c'est pas parce que le sexe est gros qu'il va donner plus de plaisir. Ça, c'est la première chose, c'est très clair. Et que, en règle générale, il se trouve que la nature est plutôt bien faite et que le contenant s'adapte au contenu. Maintenant, est-ce qu'elle va se rendre compte que c'est la première fois? C'est une question que j'ai entendue très souvent. Or, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Je veux dire, si vous êtes, par exemple, si vous êtes complètement dans la confiance et qu'effectivement, c'est une relation affectivo-sexuelle et pas purement sexuelle, par définition, au contraire, c'est une preuve de quelque chose. Ouais. Oui. Eh bien oui. Il se trouve que vous avez aussi une première fois. Bah, pour toi, ça fait peut-être un moment, mais ce n'est pas systématique. Bon, est-ce que je vais tenir mon érection et éjaculer? Je ne sais pas si le petit groupe que vous êtes là a déjà eu des pannes, mais il faut savoir, mesdames, qu'un garçon qui a une panne, c'est... Une panne, ça veut dire qu'il débande. Il y a une érection qui tombe. C'est la catastrophe. Ils vivent ça super mal. C'est très difficile. Et en plus de ça, là, je joue pas, ok, ça t'est peut-être pas arrivé, mais un de ces jours, si ça t'arrive, on en rediscute. Non, ça arrive aussi là. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans ce qu'on va appeler l'échec de performance, c'est-à-dire qu'une fois ça a débandé, vous allez passer votre temps à vous dire « Mais comment est-ce que je vais faire pour que ça remarche ?» Et ça remarche de plus en plus difficilement. Entre guillemets, c'est une histoire d'aller remettre les choses en place. Mais les pannes, ça peut toujours vous arriver. Une grosse émotion, une grosse contrariété, n'importe quoi. Ça peut toujours arriver. Donc je veux dire, voilà, donc là tu... Voilà, tu es un peu comme ça, mais ça va bien, mais... Bon. Et tu débandes, ou même avant de pénétrer. Bon. Ok pour les questions. Allez, on dit juste. Oui.
Madame, c'est vrai, par exemple, si la fille a fait pour la première fois.
Ouais.
Et elle est trop stressée, après le. Le pénis du danser, vous restez bloqué dans le bas de la fille.
Bon, alors ça s'appelle coït captivus, en latin. Le coït captivus, j'en ai jamais vu chez les humains. Tous les coïts captivus que j'ai vus, c'est un mec qui va rentrer son pénis, par exemple, chez une chèvre ou chez une chienne. C'est-à-dire, grosso modo, oui, ça s'appelle... Ça s'appelle de la zoophilie. Et les seules choses que j'ai pu voir, où effectivement, il y avait eu... S'il vous plaît. Une contracture... S'il vous plaît, stop. Une contracture complète, en fait, du vagin de l'animal. C'était toujours un animal, c'est jamais une femme. J'ai jamais vu une femme qui était contracturée avec une espèce de chose comme ça. Ça, c'est du fantasme. Chez les humains, c'est du fantasme. C'est pas une réalité. Ah non ! Non ! Enfin, c'est quand même pas des pratiques habituelles, hein. Bon, alors, avant de parler juste un tout petit peu, parce que là, il me reste 10 minutes. Ah non, il me reste plus que ça. Mais enfin, mon train, il est à 5h. Hein ? Bon, enfin, on verra. Ouais, je veux pas louper mon train. Alors, au final, le sexe sans affection, vous avez quand même bien compris que c'était pas tip-top. Que plus vous vous serez touché et plus vous vous connaîtrez tout seul et plus vous serez capable en couple ou à deux de faire les choses de façon plus agréable. Que là encore, on va en reparler avec la pornographie. Il n'y a aucune position ni aucun acte qui est obligatoire dans l'intimité sexuelle. Il n'y a pas « Ah ben là, mais là, on n'a pas vraiment fait l'amour parce qu'on n'a pas fait ça ». Non, ça n'existe pas. L'intimité sexuelle, c'est quelque chose qu'on décide à deux et dans lequel chacun va être capable d'y prendre du plaisir. Point. Et il n'y a pas d'autre limite que celle-là. Et qu'il n'y a aucun modèle pour être un bon ou un mauvais amant, c'est-à-dire que, ou amante. On peut être une bonne amante pour un mec et une très mauvaise amante pour un autre, et inversement, un mec peut être un bon amant pour une et un très mauvais amant pour une autre. Ce que je veux dire, c'est que là encore, la seule chose qui va compter, qui va faire en sorte que l'acte sexuel ou que l'intimité sexuelle soit satisfaisant, ça va être le respect et l'écoute de soi-même et de l'autre. Même quand c'est difficile. D'accord ? J'ai plus de voix. Bon, alors maintenant, Internet. Parce que manifestement, en tout cas chez les journalistes, ça les titille complètement. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe avec vous et Internet. Mais grosso modo, de ce que j'ai entendu, j'ai cru comprendre que de temps en temps, certaines filles se laissaient filmer par leurs copains et qu'elles se sont retrouvées sur un blog, j'imagine, qui est passé en boucle le lendemain ou le surlendemain. Alors, qui est-ce qui est con ? Attends, c'est la fille qui a décidé, une fois qu'elle est filmée, que le film il va se retrouver sur Internet en train d'être diffusé. Et bien, peut-être parce que le mec lui a dit, mais non, mais si tu m'aimes vraiment, tu te laisses, parce que vraiment, j'ai très envie de t'avoir sur un film. Bon, donc manifestement, en tout cas, vu les réactions qu'il y a ici, ça vous semble une évidence que ça ne doit pas fonctionner comme ça. Alors, la chose que je voudrais que vous entendiez, même si j'espère que vous êtes au courant, Internet, c'est un outil de communication et ce n'est pas autre chose qu'un outil de communication. Chut. Et que le problème, c'est qu'il faut savoir s'en servir. Et que quand on porte une information, quelle qu'elle soit, que ce soit une adresse, un nom, une photo, sur un chat ou sur un blog, par définition, c'est comme si cette information-là, vous aviez été la mettre sur la place du village et que tout le monde pouvait la voir. Sauf que là, ce n'est pas la place du village, c'est la place du monde. C'est-à-dire que c'est le monde entier qui peut voir. Donc, c'est un outil génial. Mais ça implique qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune intimité sur Internet. Mais aucune. Tout ce que vous allez pouvoir mettre sur un chat, un blog, n'importe quoi, se retrouvera partout, auprès de n'importe qui, et vous ne pouvez pas savoir qui. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas utiliser Internet. Je suis en train de vous dire que ça, il faut le savoir, et donc ne pas faire n'importe quoi avec. Ok ? Ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Et alors, c'est d'autant plus important, pourquoi je vous redis ça en plus, et pourquoi on en parle beaucoup actuellement ? À l'heure actuelle, il n'y a pas, suivant le type de profession que vous allez faire et quand vous allez prendre un boulot, quasiment tous les employeurs vont maintenant aller sur Internet vérifier qu'est-ce qu'il y a comme information sur la personne en question. Par exemple sur Facebook, mais ça peut être sur aussi d'autres choses. Et ils vont pouvoir comme ça remonter plein de choses. Donc tout ce que vous allez pouvoir mettre sur Internet, de toute façon, a une traçabilité. Et en plus de ça, les moteurs type Google, mais pas que Google, tous les autres, ont obligation et font un archive. Et donc, tout est retrouvable pendant 30 ans. Ça veut dire que la photo truc-muche que vous avez mis parce que vous aviez 17 ans, que c'était rigolo, etc., dans une position très particulière, on peut là parfaitement la récupérer 10 ans plus tard avec tout ce que ça peut impliquer d'ennuyeux. Donc, il faut avoir bien compris que Internet, c'est la place du monde et que c'est le public. Et que tout ce que vous allez faire, c'est comme ça. Et qu'actuellement, l'outil est tellement merveilleux qu'il n'y a pas un employeur qui ne l'utilise pas pour aller vérifier un peu qu'est-ce que vous avez fait et avoir une petite idée de quel type vous êtes. A fortiori, si vous avez un blog, c'est comme ça assez facile d'avoir une idée de à quoi vous ressemblez, comment vous fonctionnez, c'est quoi vos pensées, etc., etc. Donc, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un blog, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller jouer et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser Facebook. Ça veut juste dire qu'il faut savoir exactement à quoi, à quoi vous qu'est-ce que ça implique. Ok ? Bon, alors maintenant, évidemment, c'est un outil. Ouais, non, je vais prendre une pastille. C'est un outil. Donc, comme tout outil de communication, ça va permettre aussi un accès à la pornographie extrêmement facile. C'est-à-dire que là où il y a 50 ou 60 ans, on allait lire les romans photos porno qu'on se passait sous le manteau, à l'heure actuelle, c'est extrêmement facile d'avoir accès à la pornographie via Internet. Alors, je suis toujours en train de me battre avec les journalistes parce que les journalistes veulent en permanence me faire dire que c'est vachement grave et... que c'est catastrophique la façon dont on peut avoir accès au pornographique, à la pornographie et comment ça influe sur votre vie sexuelle et sur ce que vous y faites. Alors, je ne suis pas vraiment complètement d'accord. C'est-à-dire que, là encore, La façon dont vous allez faire l'amour et la façon dont vous allez être capable de respecter l'autre dépendra pas du tout de savoir si vous avez vu un film porno ou pas, mais de la façon dont vos parents vous ont éduqué et qu'est-ce qu'ils vous ont montré comme exemple. Et il est évident que si vous êtes dans une maison où il y a un père qui passe son temps à insulter la mère ou qu'il y a une mère qui passe son temps à insulter le père, il est évident que l'image que vous allez avoir de l'autre sexe est quand même pas tip-top en règle générale et c'est quelque chose qui va se reproduire. Et ça aura de toute façon beaucoup, beaucoup plus d'influence que tous les films porno que vous pourriez voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un film porno ? Oui.
Je suis pas d'accord.
Pourquoi ?
Parce que moi, je pense qu'on parle pas, enfin, je sais pas pourquoi pour moi, mais on parle pas trop de vie sexuelle avec nos parents.
Mais là, c'est pas une histoire de parler de vie sexuelle, c'est une histoire que dès que t'es petit...
Je veux pas dire, voilà, moi j'ai fait ça avec elle, partir en détail, j'ai fait ça, ça...
Bah bien sûr, et heureusement.
Quand on sait pas, au début, au tout début, quand on sait pas et qu'on a vu des films, déjà, on a déjà vu des films porno avant de faire quoi que ce soit, nous.
Donc mais tout le monde,
on voit
90% des jeunes de 13 ans ont vu un bout ou un film porno. Ils veulent faire pareil. Tout est relatif. Ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes un film porno, et c'est là où je veux redire, ce que je veux dire, c'est qu'un garçon qui ne respecte pas une fille, ça ne sera pas parce qu'il aura vu un film porno. Ça sera parce qu'il aura été éduqué dans un milieu où, de toute façon... la personne de l'autre sexe n'est pas respectée. Voilà, c'est ça que je voulais dire en premier. Maintenant, il faut savoir ce que c'est qu'un film porno. Un film porno, c'est un outil pour exciter les hommes. C'est-à-dire que c'est fait par les hommes pour exciter un homme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est monté toujours de la même façon, avec des gros plans. Un mec est visuel, rappelez-vous ce que je vous ai raconté. Un mec est visuel, donc de toute façon, le plan complet, ça ne l'intéresse pas. Un mec... de façon générale, découpe la femme. C'est tout, c'est le mode de fonctionnement, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et donc le film pornographique, il est fait pour répondre à ça. C'est-à-dire que ce ne sont que des gros plans avec des séquences stéréotypées. Puis alors quand c'est stéréotypé. Hein. Donc ça commence par vaguement une fellation, en général, hein, toujours, il y a une fellation, après le coït vaginal et ensuite la sodomie. Et si possible, il faut voir le sperme sortir parce que sinon, là encore, c'est pas excitant. C'est fait pour exciter un homme et il faut qu'il y ait de la vue. D'accord ? Donc, ça a tout à fait son rôle. Je veux dire, pourquoi pas avoir la capacité d'avoir un outil pour s'exciter ? Parce que, je l'ai marqué après, mais je vous le redis, même si ça va vous choquer, je les mets en parallèle systématiquement. Le pornographique de la femme, je parle de la femme, je ne parle pas de vos âges là, hein. Pornographique de la femme, c'est Harlequin. C'est les bouquins à l'eau de rose, c'est les bouquins de l'histoire, machin, romantico-truc-muche, qui se finit bien, etc., etc. Et c'est ça qui va souvent nourrir l'excitation sexuelle des filles. C'est comme ça. Là encore, c'est une façon de fonctionner. C'est ni bien ni mal. Donc effectivement, une fille qui va regarder un film porno, de temps en temps pourra être excitée avec. Souvent non, parce que c'est pas fait pour. C'est pas dédié à elle. La femme, elle est très peu visuelle. Elle est quelque chose dans la globalité. Quand elle va regarder un mec, elle en regarde rarement ses fesses. Elle va regarder l'ensemble, à la limite la couleur des yeux, le son de la voix, etc. Le mec, quand il va regarder une nana, il va d'abord regarder ses seins. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Ou son cul. La femme, la fille, va regarder l'homme en regardant comment il... dans la globalité. Le film porno, il est détaillé parce que les mecs fonctionnent comme ça, c'est tout. C'est une histoire de fonctionnement de chacun. Donc maintenant, il faut savoir que le film porno, c'est pas un exemple. C'est ce que je vous ai expliqué avec le bassin et la bascule du bassin, mais c'est vrai pour tout le reste. C'est un outil pour nourrir l'excitation sexuelle. Et de la même façon que ça nourrit l'excitation sexuelle chez un mec de 50 ans, ça nourrit l'excitation sexuelle d'un gamin de 18 ou de 16. C'est quelque chose de logique. Ce n'est en aucun cas un exemple. Ce n'est pas la vraie vie et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est surtout pas comme ça que vous prendrez le plus de plaisir, parce que je vous rappelle quand même à tous et à toutes que le but de l'intimité sexuelle, c'est un, de partager et deux, de prendre du plaisir. Et pas de reproduire je ne sais quelle séquence, et ce n'est surtout pas la performance. Et le gros problème de la plupart des garçons et des hommes, c'est qu'ils restent dans quelque chose de performant. Il faut être performant. Il faut bander longtemps, il faut y aller fort, il faut faire toutes les positions, il faut... Ouais, sauf que c'est pas ça le plaisir. C'est pas ça la sexualité. Le plaisir, c'est la capacité de prendre le temps de goûter à l'autre. Et de goûter à l'autre, c'est goûter à l'autre dans tous les sens du terme. Avec les mains, avec la bouche, avec le sexe, avec le corps en général, et avec les paroles, et avec la capacité à s'entendre. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait ça dans le film porno. Mais ce qui est logique, le film porno, il n'est pas là pour ça. D'accord ? Donc, le film porno, il n'a rien à voir avec la vraie vie. Alors maintenant, j'ai bien entendu ce que tu as dit. J'ai bien entendu que, bah oui, mais quand on ne sait pas, ça nous permet d'avoir une petite idée. Alexandre ? Ça nous permet d'avoir une petite idée. Ouais, ça te permet d'avoir une idée que ton pénis, il va possiblement pouvoir rentrer dans le vagin et puis peut-être que si tu te fais caresser comme ça, ça va être bon. Enfin, ça, de toute façon, tu le sais à 13 ans. Ça ne veut pas dire que c'est ça que tu vas reproduire de façon systématique en te disant « Ah ouais, non, mais moi, je n'ai pas fait l'amour s'il n'y a pas eu sodomie. » Enfin, j'ose espérer que tu ne te dis pas ça dans ta tête parce que sinon, on est un petit peu dans la merde. Oh. Donc, le film porno, ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Ça, c'est la première chose. La fille se nourrit de romans dits à l'eau de rose, enfin, en tout cas romantique. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Que la séquence fellation, coït vaginal, sodomie, ça n'a rien de nécessaire à l'apprentissage du plaisir. Et que là encore, c'est encore une histoire de capable de prendre son temps et capable d'être à l'écoute de ce qu'on ressent à la recherche de plaisir. Donc maintenant, l'histoire de se faire filmer là. Donc manifestement, au vu des réactions que j'ai entendues, vous avez toutes l'air de dire, bah oui, c'est complètement débile. Ouais, c'est complètement débile, sauf si vous êtes complètement très amoureuse. Donc là encore, au point où on en est et tel que fonctionne Internet, effectivement, il n'y a pas de photos, pas de films, etc., tant que vous n'êtes pas dans une relation de confiance. Et une relation de confiance, ça ne fait pas un mois. Hein. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans la durée et dans le long terme. Bah non, ce n'est pas deux mois non plus. Et d'autre part, la question encore, qu'est-ce que ça apporte ? C'était quoi l'objectif en se faisant filmer et c'était quoi l'objectif d'aller filmer ? Bah, je dis vous parce que vous êtes le groupe de garçons que j'ai là.
Dans les téléphones aussi, c'est comme ça.
Oui, mais c'est toujours les garçons qui filment, c'est pas les filles. Je crois pas. Oui, mais c'est les filles ne filment pas. Donc maintenant, c'est quoi l'objectif du garçon qui filme ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Alors moi, je vais vous répondre ce qu'il cherche parce que ça fait là encore partie de la construction du garçon à cet âge-là. Il faut qu'il se la pète et qu'il montre qu'il est capable. C'est tout, c'est comme ça. Ça fait partie de lui, c'est-à-dire qu'un mec, il a besoin de se dire « Putain, et j'en ai eu tant, et il y a eu ci, et j'ai fait ça. » La performance. Et là encore, vous ne pouvez pas leur en vouloir. C'est-à-dire que c'est la façon dont les hommes se construisent dans la rivalité, dans la performance. Mais vous, vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de ne pas accepter ça. Mais eux... Oui, j'écoute.
Il n'y a pas tout le monde comme ça.
Bien sûr que non, il n'y a pas tout le monde. Heureusement. Et c'est ce que je redis là encore. Qu'un garçon, ça peut être timide, ça peut être gentil, ça peut être doux et ça peut être quand même un très bon amant.
Après, c'est sûr que s'il n'existe
pas. S'il existe.
Comme il m'a dit, mon ami, il m'a dit si c'est Clara Morgane.
Si c'est quoi ?
Il a pas dit ça ?
Si, il a dit.
Si c'est quoi ? Non, on ne peut pas faire de vidéo de façon générale, je veux dire. Ça rime à rien. Le seul objectif que vous avez en filmant votre copine, ça va être de pouvoir le montrer à quelqu'un d'autre pour dire T'as vu ? Et je suis bon, t'as vu, je suis bon, puis je suis dans la performance, puis t'as vu comment elle m'aime. Il se trouve que dans ce qu'on m'a rapporté, c'est des choses qui ont existé dans ce lycée. Et de façon générale. Hein ? Ici. Donc là encore, point, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut être très clair sur ce que ça veut dire et ce que ça implique. J'ai plus de voix là. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Internet ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'il ne faut pas se laisser avoir ? Est-ce que c'est vraiment se laisser avoir ? Moi, ce que j'aurais aimé que vous me dites, c'est Moi, j'ai retenu que les garçons, c'était pas comme les filles, et que les filles, c'était pas comme les garçons. Et que quand ils font quelque chose qui nous semble dégueulasse, en fait, c'est pas obligatoirement dégueulasse. C'est la façon dont ils sont construits. Donc, il faut que nous, on soit capables de s'écouter et de prendre le temps. De prendre le temps. Là encore, c'est pas pour faire comme la copine, ou c'est pas parce qu'il y a une espèce de pression à dire ah ouais, mais t'es rien du tout. T'es pas une femme, toi, tu couches pas. Bah, si. Hein? C'est voilà. C'est-à-dire que la sexualité et coucher, c'est quelque chose qui se partage et qui doit être bon et qui nécessite pour ça, en tout cas pour vous, les filles, de la sécurité affective. Et donc la sécurité affective, bah, c'est pas en 15 jours, ça c'est très clair, ni en un mois, ni même en deux. Mais ça, attends, je veux dire là encore, à un moment donné, de toute façon, il va falloir faire confiance. Et ça, tu l'auras toute ta vie. Non, mais enfin, si elles peuvent éviter de le vivre mal, c'est bien.
Mais on aura vécu des belles choses quand même.
Oui, enfin, pas toujours. Tu peux, je ne suis pas sûre que faire l'amour avec un mec et le lendemain être largué, elle, ça va être une belle chose.
Ouais, non, les restos, les trucs ça, ça marquera. Comme ça, une petite soirée entre amoureux, on va prendre un tour ensemble.
Peut-être.
Ça reste, là. Ça sera toujours même.
Mais toi, ça va rester parce que toi, tu fonctionnes comme un garçon avec quelque chose qui n'a pas besoin d'affectif, ou en tout cas où l'affectif n'est pas la chose primordiale. Oui, mais tu peux l'intéresser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle veut coucher avec toi tout de suite. Elle peut avoir prendre le temps de te connaître, savoir ce que tu as dans le bide, qu'est-ce que tu penses, comment tu fonctionnes. Ah ben alors ça, je ne suis pas sûre, parce que de ce que j'entends régulièrement, c'est que je pense que les filles vont plus facilement vers les garçons qu'elles n'allaient avant, et je ne suis pas sûre que vous soyez moins timide. Je crois que ce n'est pas très facile de vous construire comme homme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, j'ai plus de voix du tout, ça devient catastrophique. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que ce qu'on peut faire, c'est que les garçons peuvent sortir et puis après, je laisse les filles toutes seules pour voir si elles ont des questions. Mais les garçons, j'ai eu le temps de discuter avec eux au départ. Bon, est-ce qu'on arrête là? J'écoute. Ah, pourquoi il y a plusieurs pilules? Ben, il y a plein de types de pilules. J'y vais là parce que je suis partie pour un cours. Hein. Grosso modo, la pilule à votre âge que vous devez prendre est ce qu'on appelle la pilule avec des estrogènes et de la progestérone. C'est-à-dire la pilule estroprogestative. D'accord? Dans ces pilules estroprogestatives, en règle générale, elles ont été faites pour mimer le cycle normal. Ce qui veut dire que du coup, on prend 21 comprimés, on arrête 7 jours. 21 comprimés, on arrête 7 jours. Et les règles, enfin, on se met à saigner 2, 3, 4 jours après l'arrêt de la fin de la plaquette. D'accord? Et on reprend 8 jours après. Ça, c'est la pilule normale estroprogestative 21 jours sur 28. Et dans ces pilules de 21 jours sur 28, il y a plusieurs dosages. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Il y a eu des premiers dosages qui étaient très importants et on a maintenant des dosages qui sont très faibles et qui, du coup, donnent un peu moins de douleurs dans les jambes, par exemple, ou de mal au sein. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a le dosage de l'estrogène et puis il y a le progestatif qui peut changer. Et suivant le progestatif qu'il y a, ça sera plutôt un qui donnera moins de boutons ou pas. Voilà, c'est ça les différents types de pilules de la pilule estroprogestative. Et puis après, il y en a d'autres qui sont plus ça. Bon, c'est pas le but là, quoi. Je vais pas vous refaire un cours sur... D'accord? Ça répond à ta question? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Fort.
La plupart des cas, la plupart des pilules ne sont pas sûres.
Comment?
La plupart des pilules.
Les pilules sont parfaitement sûres, c'est 100% d'efficacité à partir du moment où elles sont bien prises. Il n'y a pas de pilule pas sûre, ça n'existe pas. D'estroprogestatif. Hein. À partir du moment où elles sont prises correctement, c'est 100% d'efficacité quasiment. Comment ? Un travesti, tu veux dire un homme qui est travesti en femme et qui s'est fait opérer ? C'est ça que tu veux ? Ça, c'est quoi un travesti pour toi ? Non, mais un homme qui s'est fait opérer ou un homme qui s'habille en femme et qui... Ben, en général, il fait l'amour avec un homme. Il a toujours son pénis. Sauf s'il s'est fait opérer. Mais pourquoi ça vous intéresse ? C'est assez drôle. Non, ben, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même rarissime. Enfin, le travestisme, c'est quand même quelque chose de très, très, très... C'est pas à chaque fois, parce que quand tu as changé une fois, tu ne changes pas 36 fois. Eh bien oui, ben y a des gens qui changent, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas le bon sexe. Mais enfin, c'est quand même exceptionnel. Et c'est tout un travail très long. Hein ? D'autres questions ? On peut arrêter là ?